Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Good morning business, le grand débat.
Et avant de parler de TikTok et des retraites, on va parler du stress des salariés français. On pensait que avec la fin du Covid, le retour au bureau ou à l'usine, ça irait mieux. Alors pas du tout. L'équilibre psychologique des salariés est très préoccupant, selon le baromètre Empreinte humaine que on vous a livré en exclusivité ce matin, selon aussi Via Voice que François-Mickey Marty représente ce matin. Et on va en parler avec vous, avec Raphaël Bloch aussi et avec Bruno Mettling. On va d'abord écouter ce détail du baromètre avec Nathan Cocampo.
2 millions de salariés présentent un risque de burn-out sévère. Un niveau toujours deux fois plus élevé qu'avant la crise sanitaire. Il y a bien un avant et un après pandémie. Plus de 4 Français sur 10 présentent de la détresse psychologique avec des symptômes de dépression et d'épuisement. Une détresse liée pour une grande majorité d'entre eux au travail, comme l'explique Christophe Nguyen, président du cabinet Empreinte humaine.
La moitié explique avoir le sentiment d'être une ressource, voire un outil uniquement pour des décideurs, pour des actionnaires, des investisseurs. Et je trouve que c'est assez symbolique finalement de ce rapport au travail où les gens se sentent un peu peut-être dépossédés aujourd'hui, ne se reconnaissent plus dans ce qu'ils font et font de moins en moins ce qu'ils aiment faire.
Depuis 3 ans, cette détresse psychologique concerne plus particulièrement les femmes, les jeunes et les managers, avec des préoccupations autour des inégalités et du rapport au travail. Aujourd'hui, la question des retraites inquiète aussi. 7 Français sur 10 pensent ne pas pouvoir tenir avec le recul de l'âge de départ.
Les chiffres sont quand même énormes. Bruno Mettling, président du cabinet Topix, est avec nous. Vous êtes ancien DRH d'Orange. Bruno Mettling, quasiment tout le monde va mal. C'est-à-dire que j'ai l'impression que plus on mesure, plus on s'aperçoit de l'ampleur des dégâts.
Oui, alors c'est vrai qu'on vit une post-Covid, hein, ça a été dit dans le reportage qu'on vient de voir, une dégradation très forte. Nous, on la voit bien dans les entreprises qu'on accompagne. Santé au travail des salariés, hein, pour reprendre ce thème. Derrière, il y a plusieurs facteurs, et le problème, c'est de ne pas forcément globaliser uniquement l'analyse à travers le chiffre global. Il y a 2-3 éléments qui semblent assez déterminants. D'abord, il y a un pessimisme qui s'est installé, hein, notamment chez les jeunes. Moi, je suis frappé du nombre de jeunes dans les enquêtes qui déclarent utiliser des antidépresseurs. On a multiplié par 2 le nombre de jeunes en moins de 10 ans, donc on a vraiment des vrais enjeux. Le deuxième élément, ça a été dit, je crois que la manière de conduire les transformations et les réorganisations, la perte de sens, toutes les enquêtes convergent. Vous n'avez pas un observateur qui ne le dise pas, montre bien que la relation au travail s'est fortement dégradée. Ça avait des signes avant-coureurs avant le Covid, mais après Covid, on voit que des populations comme les managers, par exemple, les managers de proximité, c'est-à-dire la voix et le visage de l'entreprise chaque matin quand ils prennent des équipes, qui étaient dans une dynamique positive liée à la reconnaissance que leur valait le titre de manager, est en train de s'effriter extrêmement fortement. Bref, il y a une vraie urgence à prendre conscience pour un discours de dirigeant par rapport à un discours d'entreprise qui consiste souvent à contester cette existence-là, à renvoyer un thème global sur l'attachement des Français au travail, la dégradation, leur manque de volonté au travail. La réalité est beaucoup plus subtile que ça, beaucoup plus exigeante. Le fonctionnement des entreprises, le sens de sa présence au travail est aujourd'hui un facteur préoccupant par rapport à ce que toutes les enquêtes montraient il y a encore 5 ou 7 ans.
François-Mickey Marty, pour Via Voice, vous constatez la même chose, je crois, dans vos études. Ce qui est frappant, effectivement, c'est qu'on pensait qu'il y aurait une inversion, c'est qu'après la fin de la pandémie, on reviendrait un petit peu à l'avant-Covid. Pas du tout. Il y a une transformation profonde de la relation au travail, et qui se traduit d'ailleurs par ce stress psychologique.
Oui. Alors, en effet, je crois qu'on est tous d'accord, et je rejoins tout à fait ce que dit Bruno Mettling, on est d'accord sur le constat, c'est-à-dire que la situation se détériore, pour dire les choses simplement. Voilà, nous, on a une plateforme qui s'appelle Bloomtime, qui incite à échanger, à dialoguer sur ces enjeux-là, qui ouvre des forums de discussion, et on voit en effet de nombreux responsables en entreprise, des salariés, quelles que soient les fonctions, des gens qui ne sont pas bien. Alors, les deux choses qui sont déclarées de manière spontanée, c'est le manque de reconnaissance et deuxièmement le manque de confiance. Sur les deux points, c'est pas nouveau. En France, depuis longtemps, on a des problèmes de reconnaissance et de confiance. Mais quand on creuse un peu, il y a 2 autres choses, moi, qui me paraissent très intéressantes. D'abord, la dimension normative d'une entreprise, c'est-à-dire il y a un moment où on dit on fait ça, on fait pas ça, ce que tu fais c'est bien, c'est pas bien, etc. Et dans la période post-Covid que l'on évoque là, où on a tous des sentiments de fragilité, etc., au fond on a une dimension normative qui est parfois un petit peu mal vécue dans l'entreprise, même si les relations sont bonnes, etc., etc. Et le deuxième élément qui
ça veut dire que les salariés ont pas envie d'avoir des retours de leur encadrement sur le fait que ils vont dans la bonne direction ou on peut les aider à aller dans une autre. Enfin, c'est pas accepté.
Pour dire les choses à très grands traits, la grande tendance de fond, c'est On a été fragilisé psychologiquement pendant la période Covid. On a envie de moments de sérénité où on se retrouve idéalement chez soi avec des choses que l'on aime, que l'on choisit. Et en entreprise, vous n'êtes pas toujours. Ça peut arriver.
Mais
vous n'êtes pas toujours avec des choses que l'on aime, que l'on voilà. Et l'autre sujet qui, à mon avis, est encore plus profond, c'est la difficulté à générer de la délibération constructive, à faire de la délibération constructive. C'est-à-dire, on discute, et si l'autre en entreprise n'est pas d'accord avec moi, on a deux tendances qui sont très fortes. C'est soit le non-dit. Et le non-dit, quelque chose qui progresse. Je n'ose pas dire que je ne suis pas d'accord avec toi. Ou alors, au contraire, du conflit. Et donc, la relation en entreprise devient extrêmement compliquée, parce qu'au fond, on le voit dans la société, on le voit sur les réseaux sociaux, on le voit partout, vous allez me dire. Mais au fond, c'est comment on fait pour débattre sereinement, pour arriver ensemble à une décision où chacun fait du compromis. Et on a tendance, la part du non-dit est extrêmement difficile à gérer, parce qu'on a le sentiment que d'autres en entreprise sont d'accord, sont contents, etc. Ça n'est pas le cas. Et a fortiori, le conflit est aussi difficile à gérer.
Raphaël Bloch, et pourtant, combien d'outils on a aujourd'hui pour aller mieux au travail, pour faire des compliments, pour faire du feedback? Enfin, il y en a partout, il y en a peut-être trop même.
Bah, effectivement, je pense que, déjà, je rejoins votre constat, c'est-à-dire que sur longue tendance, effectivement, on sait qu'on a un problème. Après, il y a eu le cas quand même du Covid, où finalement, on a beaucoup parlé de la libération au travail, et finalement, on ressort du Covid avec la réforme des retraites, le fait que beaucoup d'entreprises demandent de revenir sur le lieu de travail, donc on a l'impression que les choses n'ont pas tellement évolué, et effectivement, ce retour au travail s'accompagne de plus en plus d'outils. Je lisais une étude il y a quelques semaines, en l'espace d'un an, je crois qu'on a quasiment doublé le nombre d'outils qu'on utilise au travail, effectivement, les interfaces qui permettent d'échanger avec les collègues, avec les managers, plus toutes les tâches qu'on va gérer à distance. Donc il y a une question sur est-ce que ma place est sur le lieu de travail, est-ce que je peux télétravailler, quel est mon rapport à mes collègues, et effectivement, on n'a pas de solution à ce niveau-là.
Raphaël Bloch, vous êtes tout jeune. Est-ce qu'il y a une question générationnelle? Souvent, les chefs d'entreprise nous disent on a un problème particulier. Non, mais c'est vrai. Peut-être qu'ils ont tort à motiver cette génération, à leur donner envie de travailler, de venir tous les jours au bureau, parce qu'ils ont effectivement pris les habitudes de la pandémie.
Oui, alors effectivement, beaucoup de jeunes se posent ces questions parce qu'il y a quelques décennies, finalement, on entrait dans une entreprise, on se lançait dans une carrière en se disant, je démarre à 20-25 ans et je sais que je me projette sur 20-30 ans. Et donc, c'est vrai qu'avoir de la visibilité à ce niveau-là, c'est rassurant. Maintenant, on a plus de liberté parce qu'on va avoir tendance à changer, mais en même temps, c'est davantage de responsabilité. Et effectivement, ça pose des questions sur quel sens je vais donner à ma carrière. Est-ce que j'ai envie de partir dans tel ou tel secteur, travailler pour telle ou telle entreprise? Est-ce que même, moi, c'est par exemple le choix que j'ai fait, c'est est-ce qu'on se lance seul? On sait qu'il y a de plus en plus de petites entreprises avec des jeunes à leur tête, mais c'est aussi beaucoup plus de responsabilités et des choses à gérer à côté.
Bruno Mettling, est-ce que le prisme générationnel, c'est une bonne grille de lecture, ou en fait, finalement, peu importe les générations, on n'a pas envie d'être manager? On le voit, la prise de responsabilité est compliquée.
Moi, je partage. On s'aperçoit que les jeunes, en fait, sont les porte-parole plus directs, plus cash, j'allais dire, d'une transformation des relations au travail qui se répand à une vitesse incroyable dans toutes les générations. Moi, j'accompagne encore une fois des grandes entreprises, j'ai les témoignages de responsables de magasins, etc. Ils sont sidérés à la vitesse avec laquelle les repères se transforment. Donc, oui, les jeunes sont la pointe avancée d'une transformation du travail, mais moi, sur quoi je voudrais insister, c'est que, en réalité, on s'est tous un peu trompés en sortie de Covid, on s'est très polarisé sur l'organisation du travail, le travail à distance, etc. Et c'était important, et les potentialités positives que ça avait. On a tous sous-estimé l'ampleur de la transformation du lien au travail, au sein des salariés, et j'allais dire les attentes qui ont... Et là, on vit un choc frontal entre des organisations d'entreprise qui restent fondamentalement réorganisées, qui reviennent au monde d'avant, en tout cas, qui se projettent plutôt dans cette logique-là, le retour au travail, le retour au bureau, et des jeunes qui consistent à dire, mais attendez, on m'a fait confiance, on était débureaucratisés, on était efficaces dans la période précédente, et tout d'un coup, post-Covid, il faut revenir au fonctionnement d'avant. Et là, il y a un écart. Et puis, je voudrais dire une dernière chose, je considère que par rapport à la société, c'était dit dans l'un d'entre vous, l'entreprise n'est pas un îlot complètement isolé, donc les tensions dont on a parlé sont celles de la société. Et j'ai même tendance à dire que dans beaucoup de cas, il faut pas trop généraliser, le vivre ensemble en entreprise est encore un des derniers éléments par rapport à ce qui se passe dans le quartier, par rapport à ce qui se passe dans la société en général, sur lesquels les fractures sont atténuées par les règles du fonctionnement collectif. Donc je voudrais pas que l'entreprise soit ce matin le porte-parole unique et responsable du niveau de tension qu'on observe dans l'ensemble de la société et qui ne s'arrête pas effectivement aux portes de les entreprises dans les condition du vivre ensemble.
L'entreprise n'est pas responsable de tout.
Non, exactement. Et on a, je trouve aussi beaucoup trop souvent une attitude très caricaturale sur le rôle des entreprises, en disant elles font rien, elles infantilisent, etc. Bon, on a quand même des entreprises qui savent un petit peu fonctionner, et ces sujets-là sont très difficiles. Juste un chiffre, peut-être, pour rebondir sur ce que dit Bruno Mettling, on a aujourd'hui 36% des salariés en France, 36%, qui ne s'estiment ne plus faire partie du corps social de l'entreprise.
C'est la question du collectif.
C'est la question du collectif. C'est, je viens à l'entreprise, j'ai mon job, mais tous les autres autour de moi, c'est plus mon équipe, c'est plus mon groupe, etc. Donc, en effet, je rejoins tout à fait ce que dit Bruno Mettling. On a beaucoup réfléchi sur l'organisation du travail, mais le rapport au travail, en revanche, et la manière dont on fait une société dans l'entreprise est un enjeu, à mon avis, sur lequel nous allons pouvoir plancher dans les années qui viennent.
Et paradoxalement, le télétravail, qui est effectivement source de libération pour certains, peut aussi devenir un problème, parce qu'effectivement, on distend les relations entre les collègues, et le simple fait de se retrouver pour des réunions, de pouvoir échanger, de construire collectivement, avec un manager ou pas, ça change quand même beaucoup de choses, et on voit, effectivement, même nous, en interne, on a aussi besoin de se retrouver, et pas simplement d'être éclaté, chacun dans son coin, et de travailler dans un couloir.
Ouais. C'est sur ce terreau-là, quand même extrêmement fragilisé, que se déroule le débat sur la réforme des retraites, mais évidemment les mobilisations sociales. L'événement de la nuit, vous le savez, hein, c'est l'adoption par le Sénat, donc c'est quand même une instance démocratique, du fameux article 7 de la réforme des retraites, le report de l'âge de départ à 64 ans, 201 voix pour, 115 contre, bon, c'est implacable. Alors évidemment, ça va retourner à l'Assemblée nationale. On va d'abord écouter la satisfaction d'Olivier Dussopt, le ministre du Travail. C'est intéressant parce qu'ils vont évidemment jouer de ce blanc-seing démocratique. On l'écoute.
Le Sénat a fait le choix de suivre le gouvernement et de soutenir ce texte sur la partie qui concerne l'âge. Nous avons des désaccords, nous avons des discussions avec le Sénat, c'est normal. Mais sur la question de l'âge, sur les réponses à apporter aux déficits structurels, aux déficits chroniques du système de retraite, nous allons ainsi pouvoir relever progressivement, bien sûr, l'âge de départ à la retraite. C'est une étape importante de franchir avec un article majeur, mais une réforme se construit étape par étape et nous avons encore devant nous l'examen du reste du texte au Sénat et puis la suite du débat parlementaire autour de ce texte dans les prochaines semaines.
François Miquet Marty, est-ce que ça change quelque chose pour l'opinion publique que ça soit voté cet article 7 au Sénat ou finalement ça ne change rien ?
Si, alors on peut même dire que c'est fondamental.
Ah oui.
Alors ce qu'on regarde, si on a l'expérience des précédents mouvements sociaux et des précédentes réformes des retraites, en 2010 par exemple, dès lors que le texte est adopté au Parlement, les oppositions, en termes d'opinion, les oppositions déclinent considérablement.
Au fond, il y a encore une forme de réflexe légitimiste du rôle des institutions démocratiques.
Légitimiste, on pourrait dire aquabonis, c'est-à-dire dès lors que le texte est voté, aquabonis.
Heureusement,
voilà. Oui. Concrètement, donc, on a deux sur les deux tiers des Français qui sont opposés à cette réforme. On en a en gros 40% qui sont très virulemment opposés à cette réforme et qui vont dire, mais peu importe que ce soit adopté ou pas, et même si la commission mixte paritaire adopte la chose le 15 mars, on va continuer à s'opposer, c'est pas normal. Mais vous avez aussi le reste, c'est-à-dire 38% qui au fond sont un peu plus fatalistes pour dire les choses simplement, un peu plus résignés. On dira, dès lors que c'est adopté au Parlement, on lâche et on laisse faire. Donc c'est un point très très important et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles le gouvernement a voulu aller vite, d'ailleurs en 50 jours, pour que le texte soit adopté le plus rapidement possible.
D'autant plus que ça sera vrai aussi sur le front syndical. Il y a une partie des syndicats, la CFDT l'a dit. À partir du moment où c'est adopté démocratiquement, ils vont continuer à râler, mais ils vont arrêter de manifester. Peut-être, Bruno Mettling, est-ce que ce diagnostic sur le corps social, le fait qu'il y a encore quand même un réflexe démocratique qui va opérer dans cette opposition contre les retraites ?
Moi, je voudrais d'abord dire qu'effectivement, on a deux légitimités qui s'opposaient frontalement, et le vote de cette nuit rappelle que la légitimité dans un pays démocratique, c'est celui évidemment de la dimension politique, et le vote politique est une étape importante. Pour autant, moi, je crois que l'obsession qui devrait être celle du gouvernement, et ça là, c'est l'ancien conseiller social d'un ministre de l'économie et des finances qui parle, l'obsession du gouvernement, c'est comment je reconstruis et je retisse un minimum de liens avec les partenaires sociaux post-réforme, et en particulier avec ceux qui seraient disponibles. Si la réforme, une fois votée, continue à porter les angles morts, comme par exemple des seniors, c'est-à-dire qu'on a fait simplement de déplacer du régime des retraites au régime d'invalidité, au régime de chômage, la problématique des fins de carrière. Si cette réforme ne s'accompagne pas d'une vraie réponse construite dans les entreprises sur les angles morts de la réforme, quelle nouvelle politique senior, etc., à ce moment-là, tôt ou tard, évidemment, il en sera payé un prix important parce qu'on s'apercevra que cette légitimité politique n'a pas fondamentalement, ne s'appuie pas fondamentalement à une légitimité dans le fonctionnement quotidien des entreprises. Donc, le message pour moi, il est de dire, il faut que le gouvernement saisisse la fenêtre démocratique pour retrouver un minimum de liens et d'échanges avec les partenaires sociaux. Entre nous, en termes de conduite du changement, cette réforme, c'est quand même un zéro pointé par rapport à tout ce qu'on a pu vivre antérieurement. Mais une fois qu'on a dit ça, on dit comment est-ce qu'on prépare l'étape suivante, la sortie, pour reconstituer un dialogue social minimal dans ce pays. Il faut sortir de cet affrontement frontal entre une légitimité sociale, quand même massivement suivie par le corps social de ce pays, et une légitimité politique, même si c'est dernière et première, et c'est heureuse.
Vous nous parlez de lien social, Bruno Mettling. Je ne sais pas si ça nous fait justement une transition avec notre dernier sujet de débat, TikTok. TikTok accusé d'à peu près tout, entre l'espionnage et le fait que les enfants deviennent débiles. Je pense qu'on est à peu près sur l'ensemble des sujets. On a un sondage quand même sur TikTok. On en parle parce qu'il relance. Il faut une offensive là en Europe pour essayer de dire qu'ils sont moins méchants que ce que je décris. On a un sondage qu'on a fait avec Toluna et Harris Interactive où la question a été posée. D'après vous, quel est l'impact de TikTok sur notamment les enfants? 92% des Français expliquent que ça rend les enfants accros, 72% que c'est distrayant, 54% que c'est un instrument d'espionnage chinois, c'est les Français hein, qui répondent, 31% que ça diffuse des informations crédibles, ce qui est plutôt beaucoup. Quoi,
ouais, 31, on en parlera dans Hebdo.com d'ailleurs, de ce sondage.
Hein. Absolument, dans le détail, dans Hebdo.com. Raphaël Bloch, TikTok, c'est dangereux ou pas?
Alors, je ne pourrais pas vous répondre en deux minutes, mais effectivement, je mettrai juste de côté la dimension chinoise, espionnage de l'État chinois. Mais déjà, je trouve que ce qui est une excellente chose, c'est qu'on va peut-être enfin débattre de l'intérêt, effectivement, de ces réseaux sociaux. Je veux dire, on a la possibilité de les utiliser. Maintenant, on voit bien qu'on se pose la question sur les enfants, parce qu'effectivement, en termes d'attention et de capacité à se concentrer, à travailler, ça pose d'énormes problèmes. Sur des sujets aussi qui nous intéressent, sur tout ce qui est fake news et qualité de l'information, il y a un vrai débat. Donc, à savoir si ça nous rend idiots, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ça a des conséquences. Aujourd'hui, il y a 150 millions d'Européens qui utilisent TikTok, sans même parler des autres réseaux sociaux. Donc, c'est devenu quelque chose de systémique. C'est quasiment le service qu'on utilise le plus.
Bah, c'est passé devant YouTube, hein, non, exactement. TikTok. Hein,
donc, effectivement, il faut réussir à les réglementer.
D'ailleurs, j'ai vu qu'en moyenne, c'est 50 minutes de visage de TikTok. Je ne vois pas comment les gens font pour regarder 50 minutes.
Essayez-le. Vous allez voir.
Ça peut être arrivé aussi.
Vous perdez beaucoup de temps.
C'est tout le problème. C'est-à-dire, effectivement, ça rend vraiment addict.
Ah ouais. Et donc, avec les algorithmes notamment de recommandation.
Exactement, qui vous recommandent des choses qui vont vous plaire et c'est mélangé. Vous avez du sérieux et effectivement aussi des choses beaucoup plus fun qui vous gardent captif.
Le paradoxe, vous avez vu, c'est que le gouvernement chinois, lui, il restreint l'utilisation de TikTok parce qu'il ne veut pas que ses citoyens deviennent débiles.
Mais c'est exactement ce qu'on dit avec les géants de la tech et notamment leurs patrons qui mettent leurs enfants à l'abri de toutes ces technologies, qui les mettent dans des écoles où ils continuent d'être coupés justement de. Oui, voilà, donc on sait très bien.
Le patron de Facebook, par exemple, il interdit Facebook à ses enfants.
Pas sûr que Mark Zuckerberg pousse ses enfants à effectivement passer des heures chaque jour sur Instagram et WhatsApp.
Mais c'est un sujet de société désormais, François-Mickey Marty, TikTok.
Ah bah, c'est complètement un sujet de société. Alors en effet, je crois que depuis un an ou deux, les consciences évoluent et l'idée de régulation devient quand même de plus en plus prégnante. Ce qui a été frappant, c'est que pendant très longtemps, ça n'a pas suscité, vous le rappelez très justement, il y a quand même beaucoup de gens qui utilisent TikTok. Donc on peut s'indigner, mais enfin on l'utilise. Ouais. Pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a un an, il n'y a que 40% des Français qui savaient que TikTok était chinois. Donc les autres ne savent pas ou bien considèrent que c'est américain, etc. Et surtout, on est très vigilant dès lors que l'on considère, notamment sur les données personnelles. Dès lors qu'on a affaire à des applis ou à des sites internet qui ont trait à la santé, à la banque, à l'assurance, mais sur du loisir ou du divertissement, on est beaucoup plus léger. On a 40% des gens qui disent « je fais attention à mes données ». C'est très intéressant. Ouais. Hein. « Je fais attention à mes données personnelles quand je suis sur un site de divertissement ou de loisirs, etc. » Quand je suis sur des sites qui ont trait à la banque, assurance, santé, on a 90% des gens qui font attention. Donc c'est très intéressant parce que, au fond, le côté entertainment, pendant un certain temps, maintenant je pense que les choses changent, mais a fait qu'on s'est dit, pourquoi pas, on peut.
Et c'est ça qui fait peur d'ailleurs aux autorités américaines et européennes, parce que finalement, on donne beaucoup de données personnelles sur des sites de divertissement, en croyant que c'est juste du divertissement, sauf que ça peut effectivement remonter à des autorités politiques pour être utilisé, à des fins.
Raphaël.
Et justement, ce qui est très bien, c'est qu'on voit là dans la séquence actuelle que quand même si le politique décide d'agir, ça a un impact. On sait qu'aux États-Unis maintenant, le protocole de TikTok est audité, je crois, par Oracle. Donc en fait, ils vérifient que les données ne sont pas sorties du territoire américain. En Europe, on va enfin le faire. Et si on peut avancer dans ce sens, c'est une très bonne chose. Et en même temps, effectivement, sensibiliser les populations à l'usage de ces réseaux sociaux qui, encore une fois, deviennent véritablement endémiques.
Comme le sucre.
Voilà.
C'est le même sujet.
Vous avez un problème avec le sucre.
Mais c'est parce que pour moi, c'est le même sujet. C'est exactement la même chose. Le sucre, c'est bon, mais après.
Ça agit sur le cerveau, non, effectivement.
Et voilà, c'est le même
sujet. Merci à tous les trois.